Je vous invite à deux textes, d'abord un dans le livre des Chroniques, premier livre des Chroniques, chapitre 14, versets 8 à 17. 1 Chroniques 14, 8 à 17. Les Philistins apprirent que David avait été oint comme roi sur tout Israël. Tous les Philistins montèrent donc à la recherche de David. David l'apprit et sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et envahirent la vallée des Réphaïm. David demanda à Dieu, « Dois-je monter contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Le Seigneur lui dit, « Monte et je les livrerai entre tes mains. » Alors ils montèrent à Baal-Pérassim et là David les battit. David dit, « Dieu a ouvert par ma main une brèche chez mes ennemis comme une brèche ouverte par les eaux. » C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérassim. Ils abandonnèrent là leur Dieu et David dit qu'il soit brûlé par le feu. À nouveau, les Philistins envahirent la vallée. David interrogea encore Dieu et Dieu lui déclara « Ne monte pas à leur poursuite, fais un détour loin d'eux et tu arriveras vers eux en face des micocouliers. » C'est la version traduction écuménique. Dans vos billes, vous avez peut-être les mûriers ou les ronces. Et lorsque tu entendras un bruit de pas à la cime des mûriers, alors tu sortiras pour le combat, car Dieu sera sorti devant toi pour frapper l'armée des Philistins. David agit comme Dieu le lui avait ordonné, et ils battirent l'armée des Philistins depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tout le pays, et le Seigneur l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Et notre deuxième lecture se trouve dans l'Évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 35. Jésus pleura. Et les Judéens disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais lorsqu'un d'entre eux dit, « Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir. » Alors à nouveau, Jésus frémit intérieurement et il s'en rendit au tombeau. C'était une grotte dont une pierre avait été recouverte l'entrée. Jésus dit alors, « Enlevez cette pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il doit déjà sentir. Il y a en effet 4 jours. » Mais Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta la pierre. Alors Jésus leva les yeux et dit, « Père, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Jusque-là, la lecture. Seigneur, encore une fois, nous venons nous mettre devant ce texte, ta parole, qui a traversé les siècles pour nous arriver. Seigneur, qu'elle soit vraiment un baume, qu'elle soit vraiment une nourriture pour nous. Mais qu'en toute chose à toi, revient toute la gloire. Amen. Comme je vous l'ai dit à la lecture des deux textes, on peut voir que c'est effectivement sur la prière. Et ces événements nous ont été rapportés, comme vous l'avez lu, pour la gloire de Dieu uniquement. Alors d'abord, prenons en considération le récit des guerres entre David et les Philistins. Pour un peu situer actuellement les Philistins, c'est malheureusement la bande de Gaza. Donc David est reconnu comme le roi de tout le peuple, ce qui déplaît évidemment à ses ennemis, et qui n'ont qu'une idée en tête, casser son autorité et le soumettre. Ils se souviennent sans doute qu'avant d'être roi, ce petit jeune était berger et qu'il les a déjà humiliés en tuant leur fameux colosse Goliath. Ce frêle garçon qui n'avait que la force, même pas la force de porter l'armure, et qui a pris quelques pierres, et qui a affronté l'armée avec une simple fronde et un simple caillou. Quelle humiliation pour l'armée philistine. Certainement, qu'ils n'ont certainement pas reconnu la main de Dieu derrière ce guerrier en culotte courte, mais il a été moins roi. Le gamin a grandi, pas spécialement dans la tranquillité d'une chaumière au bord de la plage, mais dans un premier temps, et oui, au palais du roi Saül, où il deviendra son gendre. Mais ce séjour fut de courte durée. Vous pouvez tout lire, hein. On est au chapitre 14. Tout ça est expliqué dans les chroniques et dans les rois. Mais ce séjour fut de courte durée car il devra s'enfuir pour rester en vie. En effet, la jalousie du roi Saül le pousse à vouloir tuer David, dont la réputation devient très, très, très intéressante et très grande. David, en fuite, sera hébergé par le prophète Samuel, vous pouvez aussi lire dans Samuel, puis reprendra sa cavale dans les champs, dans une grotte, et même dans un séjour chez les ennemis, où il simulera la folie. Il sera de nouveau vu dans une caverne, puis au pays de Moab, il traversera le désert, les collines, les forêts, toujours avec Saül à ses trousses. David, très audacieux, lui, se rendra dans le camp de Saül, mais ne portera pas la main sur le roi. Il prendra juste un bout de son vêtement. Chose étonnante aussi, il se réfugiera à un certain moment dans le camp ennemi, le pays des Philistins. Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel 27, 28. Et même au sein de ses ennemis, pour la petite histoire, David reste un exemple. Il a même trouvé auprès de Achish, roi de Gath, une des 5 villes royales des Philistins et lieu de naissance de Goliath. Tous les détails sont là, tout est biblique. Et je vous lis, pour mettre ça dans le contexte, 1 Samuel 29, 6. Achish appela David et lui dit « L'Éternel est vivant, tu es un homme droit et j'aime à te voir aller et venir avec moi dans le camp, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'à ce jour. Même tu ne plais pas au prince. Retourne donc et va-t'en en paix pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des Philistins. » David dit à Achish, « Mais qu'ai-je fait? Qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon seigneur, le roi ?» Achish répondit à David, « Je le sais, car tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu. » Il est chez les ennemis, hein. Il se comporte comme un ange de Dieu. Mais les princes des Philistins disent, « Il n'en montera point avec nous pour combattre. » Et dans le même temps, la ville où David et sa famille étaient réfugiés est incendiée par d'autres ennemis, les Amalécites, encore un autre qui emmènera les femmes de David et ses enfants. Pas triste, ça veut dire. Nous lisons dans 1 Samuel 30, 4 à 6. « Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eurent plus la force de pleurer. » Jusqu'à ce qu'il n'y a plus de larmes. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, oui. Les deux femmes de David avaient été emmenées. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et ses filles. Qui n'a jamais eu de l'amertume pour les autres, à cause de ses enfants? Et la suite du verset, « Mais David reprit courage, en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. La suite du texte nous montre que David va tout récupérer. Quelle belle fin. Il ne lui manquera personne. Et quelque temps plus tard, les Philistins vont livrer bataille à Israël et Saül sera tué. David devint roi de tout Israël. Alors, il est là. Mais que penser de cette vie mouvementée? Petite vie tranquille, certainement pas. Pourtant, David, il avait été loin, roi, bien avant. L'Esprit de Dieu lui avait été accordé. Pourtant, il traversera un chemin d'embûches, et pas les moindres. Vous l'avez vu. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes. Ses propres frères même voulaient le lapider. Il a fraudé la mort à plusieurs reprises. Mais qu'est-ce qui lui a permis de tenir le coup? David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et dans tout ce parcours, David a mûri. Dieu l'a travaillé. Et quand les Philistins s'approchent de son campement et qu'ils envahissent la vallée de Réphaïm, il n'a pas de crainte sauf celle de l'Éternel. Et son réflexe, c'est la prière. David demande à Dieu, « Dois-je monter contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Le réflexe de la prière. Prière claire, claire, nette, précise. « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et toi, qu'est-ce que tu feras? Quelle est ma part? Quelle est la tienne? Mais je ne veux rien faire sans toi. » La réponse de Dieu est tout aussi claire. Vous l'avez vu dans le texte. « Monte, je les livrerai entre témoins. » Devant notre ennemi, devant mon ennemi, qu'est-ce que j'ai comme réflexe? Je ne suis pas vous, moi je vous prête. Est-ce que nos prières parfois sont aussi claires que ça? Est-ce qu'on met Dieu dans nos affaires? Il y a un livre qui a été écrit, « Dieu dans mes affaires ». C'était un homme d'affaires qui voulait faire des affaires, ça ne marchait pas, et quand il a mis Dieu dans ses affaires, c'était autrement. Alors est-ce qu'on attend aussi la réponse de Dieu avant d'agir? Mais Dieu arrivé, moi, de ne pas attendre la réponse et d'y aller. Ouais, c'est moi, hein? Après, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et il dit, t'as pas écouté. David sait qu'avec leurs chars et leurs chevaux, ils sont beaucoup plus puissants que lui, que ces hommes qui sont à pied. Mais il a confiance. Confiance en son Dieu. Il est vainqueur par la main de lui. Dieu lui donne la victoire. Mais il n'hésite pas non plus à lui rendre gloire à ce Dieu. Dieu a ouvert par ma main une brèche chez les ennemis comme une brèche ouvre les eaux. Il rend gloire à Dieu, mais au passage, vous avez remarqué, il ne s'oublie pas. Dieu a ouvert une brèche par ma main. Le mot « main » revient dans cette prière et dans la réponse de Dieu et dans sa louange. Et l'Éternel n'est pas contraire, parce que il ne le traite pas comme « Ah, m'as-tu vu, et oh, c'est moi qui ai tout fait ?» Non. David, lui, ne se prend pas la tête. « J'ai fait avec l'aide de Dieu, par ma main, ouvert une brèche. J'ai juste fait un trou dans l'armée de l'ennemi. Une petite brèche, et Dieu a fait le reste. » L'exemple de l'eau qui perce une digue. Vous avez vu, hein, les photos dans des films, on fait un petit trou dans un barrage. C'est fini, hein. Le barrage s'écroule. Et en souvenir de ce lieu, il sera appelé Baal Perasim, qui signifie « maître des brèches ». C'est beau quand même. On se souvient. Seigneur, merci. Merci de m'avoir fait faire une petite brèche avec ton aide. Parfois, est-ce qu'on est conscient, nous, ou moi, pardon, même qu'une petite brèche insignifiante, mais combien blessante pour notre ennemi. Est-ce que nous pouvons réaliser qu'on fait parfois un petit trou dans le plan du diable avec nos prières? L'humilité de David et sa soumission à Dieu sont ressenties dans sa reconnaissance. Il le prouvera encore, encore, dans ce qu'il a fait. Il a détruit les idoles. Il a nettoyé le pays. Mais c'est pas fini. Il dit, ça va, je suis arrivé, c'est bon. C'est pas fini. Verset 13, les Philistins envahirent de nouveau la vallée. La qui rattaque l'autre. Il remet le couvert. Eh ben ouais, ça ne lui plaît pas. Quand on pense que c'est fini, Satan, il en met une couche et revient de même de plus forte à la charge. Bien que blessé par la brèche, secoué, il est d'autant plus redoutable. Vous savez, une bête qui est blessée. Mais David a le même réflexe. La prière. Le texte ne nous dit pas ce qu'il a demandé à Dieu, mais bien qu'en lisant la réponse, on puisse deviner la question. Hein. Sa réponse est non, ne monte pas à leur poursuite. La première fois, Dieu donne une réponse positive. Ok, vas-y, monte, je les livrerai entre tes mains. Deuxième fois, ici, Dieu prend tout en main. Mais il utilise quand même David et ses hommes. Non, ne fais pas comme tu penses, mais comme je dis. Fais un détour loin d'eux, tu arriveras vers eux, en face de mûrier, et tu attends. Enfin, moi, c'est moi qui ai ajouté, tu attends. Parce que Dieu nous met des petits points. Face au mûrier, à les mûriers, aussi appelé baumier. les ronces. Vous savez, la semaine dernière, j'ai fait la présidence avec le psaume 84. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Fantastique. Verset suivant. « Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, résignez la vallée des mûriers, la vallée des ronces, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. » Et il se présente devant Dieu à Sion, éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Ce psaume, je pense, rejoint bien la situation. C'est Dieu qui est à la base de ce chemin où l'on se trouve en face des mûriers, en face des ronces, remplis d'épines. On ne sait pas où aller, on ne sait pas que faire. Il nous fait faire un grand détour, au lieu de répondre tout de suite. Il a déjà fait. Non, fait faire un détour pour qu'on se retrouve à une autre épreuve, la vallée des larmes, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mais dans sa volonté de nous sauver, il est là. Il est là. Et c'est par la foi que l'eau qui a été faite par la brèche va s'engouffrer. David, lui, à mon avis, n'a pas dû être bien. Ou avoir bon dans cette épreuve. Quand je me suis retrouvé face à mes mûriers, j'ai pas été tranquille. J'avais plus de larmes. Je dis, Seigneur, j'arrive plus. Et puis, c'est quoi ce signal qu'on doit entendre? Un bruit au sommet des mûriers, dans notre texte. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre un bruit? Dans le premier combat, David part directement et Dieu est avec lui. Ici, il doit attendre le signal de Dieu. J'ai entendu une prédication où le prédicateur disait « Ah, Dieu, il donne des signaux, des verts, des oranges, des rouges. » J'ai l'impression d'être dans ma voiture en train d'attendre. Mais qu'est-ce que j'attends? Combien de temps? Et parfois, les feux, il y a des petites indications, vous savez. Hein, avec le décompte des secondes, c'est intéressant, ça, parce qu'on sait que ça va arriver. Mais quand il n'y en a pas, c'est long parfois. Alors, la situation ici est inverse. Dieu est devant et David suit. Et on entend le signal. Mais revenons à ce signal. À quoi nous fait-il penser, le signal qu'on doit attendre? Un bruit de pas au sommet des arbres, nous dit le texte. Je me suis posé la question, qui pourrait être suffisamment grand ou agile pour aller claquer les talons au-dessus de la forêt? Quel genre de créature serait capable de faire un bruit de pas aussi haut? Pour info, le mûrier peut atteindre jusqu'à 25 mètres, suivant l'espèce. Ouh. Alors je ne vois qu'une réponse. Une créature terrestre, certainement pas, mais une céleste. Dieu envoie son armée pour vaincre notre ennemi. Dieu nous précède quand la guerre est trop importante et doit être définitive. Enfin, il nous envoie directement parce qu'on fait une petite brèche. Mais quand ça doit être définitif, c'est lui qui prend. Et il y a par contre une autre explication aussi à ce bruit au sommet des arbres, le vent. Le vent qui agite les feuilles tout simplement parce que Dieu utilise aussi sa créature et les choses qui s'y passent. Il n'y a rien de surprenant à ce que Dieu utilise tout ce qui est tout à fait naturel, le vent. Est-ce qu'on est parfois suffisamment... Est-ce que je suis parfois suffisamment attentif? Dieu qui passe dans le vent discrètement pour nous signaler sa présence. Ou le vent de l'esprit qui nous avertit. Qui nous avertit que la bataille est gagnée, mais que Dieu doit être à l'avance. Et que nous, on doit parfois attendre. Il nous arrive parfois de prier et d'attendre la réponse de Dieu et puis de ne plus espérer le signal de l'attaque. Il nous a conduit dans un chemin sans issue. Alors le doute s'installe. Qu'est-ce que je fais face à ce mur d'arbres immense et qui m'écorche et où je ne sais pas avancer? Qu'est-ce qu'il attend pour me donner le signal de sa présence? Qu'est-ce qu'il attend? L'épreuve est trop longue. L'épreuve est trop longue. Alors, le récit ne nous dit pas si David a douté dans l'attente du signal du départ pour la bataille, mais David a mis toute sa confiance en Dieu et il a agi comme Dieu le lui a ordonné. Les résultats sont là. L'ennemi est battu et poursuivi jusqu'à la fin. La renommée de David se répand, mais en toute chose, le grand gagnant, c'est Dieu. Dieu lui-même, celui-même qui rendra David redoutable devant les nations. Alors que, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette guerre entre deux parties? Dieu répond à la prière. Ça, on n'a pas besoin d'un texte comme ça. Dieu ne répond pas toujours comme nous pensons. Dieu peut et veut travailler avec nous. Il ne va pas faire tout seul. Il pourrait envoyer ses myriades, nettoyer la terre. Il ne le fait pas. Il travaille avec nous. Dieu ne travaille pas toujours de la même manière non plus. Il faut parfois attendre le signal. Dieu peut nous permettre de faire une brèche dans nos batailles. Nous, avec son aide, enfin un petit trou. Mais la victoire finale, c'est pour lui. Alors pour notre part, malgré nos multiples épreuves par lesquelles Dieu nous aurait fait passer, ou m'aurait fait passer, la foi est primordiale. Je me dis, mais si je n'avais pas connu le Seigneur dans tout ce que j'ai traversé, je pense que je ne serais plus là pour vous le raconter. Face à l'ennemi, une seule attitude, la prière d'abord. La prière d'abord. De nous, généralement. Je fonce, et puis après, je dis, Seigneur, viens dans ma bêtise, viens dans ma folie. Et lui, il dit, bon, ok, tu es mon enfant, je vais le faire. Et face au chemin peut-être incompréhensible de Dieu, foi, prière, patience. Et quand il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus de larmes, bah, que ferait Jésus à ma place? Vous avez vu le premier verset qu'on a vu? Jésus pleura. Jésus pleure, il a pleuré, il a aimé, il a tout fait pour la gloire de Dieu. Il prie son Père, il a la foi en la réponse. Je sais que tu me réponds chaque fois. Il témoigne et il agit surtout pour que les autres croient. Alors David n'était qu'un homme de la même nature que moi, que vous, que nous, tout comme Élie, Samuel, Abraham et bien d'autres qui ont fait pleine confiance à Dieu. Jésus, lui, était Dieu, mais aussi vrai homme. Ce qui ne l'a pas empêché de se soumettre à son Père dans la prière face à ses ennemis. Alors regardons d'abord à Christ et à Dieu et écoutons le vent dans les arbres. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, encore une fois, nous voulons venir près de toi, Seigneur, te prier, parce que tu nous rappelles encore, mais je veux entendre votre voix, je veux entendre vos prières, c'est ce qui me nourrit, c'est le poumon de l'Église, c'est la prière. Oh Seigneur, que nous puissions ne pas avoir honte, ne pas être radins sur nos prières, mais que nous puissions vouloir te parler, oh, nous exposer certainement nos soucis, nos problèmes, mais aussi te demander par où aller, que faire, mais que nous puissions surtout t'écouter. Mais dans toute chose, Seigneur, qu'à toi revienne toute la gloire. Amen.